Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le premier podcast de La Fleur qui pousse à l'intérieur.
Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Dans ses bras les fleurs de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur.
Je suis Audrey, et le 10 octobre dernier, j'ai reçu des membres du collectif des Soulèvements de la Terre autour de l'ouvrage Première Secousse, paru aux éditions La Fabrique. Cette rencontre s'est avérée passionnante et très instructive. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis vraiment ravie de vous retrouver tous là ce soir. On va parler donc des Soulèvements de la Terre et donc d'un mouvement qui milite pour la lutte écologique, mais pas que. Pour en dire quelques mots, mais je pense que si vous êtes là, c'est vous savez à peu près dans les grandes lignes ce que c'est. Pour le redire assez brièvement, c'est un collectif qui est né lors d'une assemblée à Notre-Dame-des-Landes en 2021 et qui a failli, quelques années plus tard, presque deux ans après, se faire dissoudre par le ministre Gérard Darmanin. Mais non, ça n'a pas réussi. Et donc, les Soulèvements de la Terre, c'est vraiment un acteur majeur aujourd'hui de la lutte écologique en France et qui s'est qui a focalisé sa lutte pour défendre. Qui s'est opposé à l'accaparement de la terre et des eaux et contre l'artificialisation des sols, ce qu'ils appellent les communaux. Je pense qu'on va revoir ça au cours de la soirée. Et donc le livre en question, qui s'appelle Première secousse, ça arrive après trois ans d'existence et ça se veut comme une sorte de bilan de leur existence, de leurs actions. Et c'est vraiment un livre très intéressant. C'est un livre qui est un peu à l'image en fait du collectif, parce que je pense que vous allez nous en parler plus en détail, mais c'est un collectif qui a l'air d'être qui est un peu hybride, qui mélange plein de profils différents. Et le livre est extrêmement... moi, j'ai adoré le lire, on apprend vraiment beaucoup de choses. C'est très agréable, il y a même des petits schémas qui sont intéressants. qui sont vraiment très intéressants. Et ça regroupe, en fait, c'est vraiment hybride comme format, c'est très foisonnant, c'est à la fois des récits d'action, à la fois des analyses politiques, de mécanismes de destruction de notre environnement, c'est aussi des prises de position politiques sur certains aspects de la lutte. Et c'est aussi, et ça, je trouvais vraiment ça très intéressant, ça parle vraiment des obstacles, des tensions qu'il y a eu, qui traversent le mouvement et qui le traversent encore aujourd'hui. Alors, avant de rentrer plus en détail dans la présentation des Soulèvements de la Terre, je vais peut-être vous laisser vous présenter vous, pour savoir à qui on parle.
Et ben, moi je m'appelle Nata, j'habite à Dijon, je fais partie du mouvement depuis son début un peu, et plus particulièrement à travers, il y a des commissions qui travaillent différentes aspects qu'il y a besoin de mettre en place pour le moment où il existe, et plus particulièrement à travers la commission communication, et plus particulièrement quand le travail photographique, la photographie, etc., la façon d'entrer dans ce mouvement.
Moi, je m'appelle Camille, j'habite aussi à Dijon. Je fais partie du comité dijonnais des Soulèvements de la Terre, dont on va parler un petit peu après. Ça fait quelques temps aussi que je vais à différentes actions des saisons des Soulèvements de la Terre. Voilà, bon bah.
Alors, moi, c'est Mathieu, et j'habite aussi à Dijon, et je participe. La commission aussi nationale des soulèvements de communication.
Moi, c'est Chantal, j'habite à Dijon aussi. Je fais partie du comité qui s'est créé, comité soulèvement de la terre Dijon, qui s'est créé en même temps que beaucoup d'autres comités sont nés en France au moment de la menace de dissolution. Et j'essaie. Autant que je peux, en fonction de ma disponibilité et de mon énergie, de participer aux actions dans les différentes saisons proposées par les soulèvements de la terre. Parce que je trouve que se battre vraiment pour le partage de la terre et de l'eau, notamment, c'est vraiment très extrêmement important aujourd'hui. Entre autres raisons.
Et donc, là, on voit qu'on a pas mal de membres du comité local avec nous. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Donc le comité de Dijon, comme a dit justement Chantal, s'est créé juste après l'annonce de menace de dissolution qui est survenue après les événements de Sainte-Soline, qui avaient été très violents en matière de répression, et donc Darmanin menace et à ce moment-là le mouvement. Et en fait, il y a eu une réponse à ça très très forte suite à un appel de soutien dans plein de villes de France. Il y a des comités qui se créent pour soutenir ce mouvement et aussi pour cet appel qui est signé par plus de, à la fin, je crois, pour 100 000 personnes, je ne sais pas, j'ai pas le chiffre exact. Et il y a maintenant plus d'une centaine de comités en France, dans différentes villes et, qui, ou villages, ou petites, des territoires différents. Quoi. Et donc à Dijon, la toute première réunion, c'était assez fou, on était 150. C'était assez incroyable, il y avait plein de personnes différentes, de différents mouvements de lutte ou de différents partis politiques, de différentes composantes en tout cas politiques de Dijon et des environs. Et donc c'était assez incroyable. Et petit à petit, il y a quand même un noyau dur qui s'est formé. Et maintenant, on est entre 15 et 20 à vraiment composer le comité. On est toujours ravis de pouvoir accueillir des nouvelles personnes. Et plutôt, on a un rôle de retransmission des informations. Par exemple, quand il y a la nouvelle saison qui arrive, on peut faire des réunions d'informations pour parler des futures actions, pour inviter les gens à y aller. On relaie aussi notamment des choses par rapport, par exemple, à la campagne qu'il y a eu autour du béton l'année dernière, tout ce qu'il y a eu par rapport à Lafarge et au complexe industriel et d'usine Lafarge. Et donc, l'idée, c'était de sensibiliser un petit peu et d'avertir, d'informer les gens sur comment Lafarge et ses... et tout son complexe fonctionne et pourquoi c'est vraiment un ennemi qu'il faut combattre. Quoi. Et après, nous-mêmes, on est là aussi pour essayer de rassembler les luttes locales ou en tout cas venir aider quand il y a des luttes à porter. Par exemple, il y a eu Cyrilie contre les méga-méthaniseurs à côté de Châtillon où il y a eu le comité de Malin, le comité de Dijon, on a essayé d'apporter du soutien. Et puis, il y a eu au moment de Lafarge, du coup, il y a eu l'intercomité régional où plusieurs comités de Bourgogne-Franche-Comté sont réunis dans le sud de la Bourgogne pour venir manifester contre une carrière pas loin de Cluny. Donc voilà, c'est un peu comme ça que nous, on organise notre vie du comité. Et après, on fait des AG, etc.
Est-ce que tu présentes les soulèvements de la terre ou est-ce que tu parles du quoi je te présente. Le livre, c'est donc comme je vous disais, il a plein de formes différentes, enfin, en tout cas il prend la forme de plein de récits différents. Et donc il est réparti en quatre grandes parties. Qui représente un peu, vous me corrigez évidemment si je me trompe, mais les quatre grands axes de lutte, en fait, dont tu as un peu parlé quand même des comités locaux, les quatre grands axes de lutte du collectif. Donc, je vous montre juste le sommaire pour que ça vous donne un peu un aperçu. Donc, il y a la première partie désarmer le béton, deuxième partie démanteler le complexe agro-industriel, troisième partie reprendre les terres et quatrième partie bâtir une organisation pas à pas. Peut-être que, avant de rentrer plus dans le détail, est-ce qu'on pourrait peut-être présenter les soulèvements de la terre, le collectif son histoire artistique
Je peux en dire deux mots, mais peut-être avant, est-ce qu'on poserait la question les petites questions qu'on avait imaginées pour aussi situer un peu vous, ce que vous en connaissez, parce que, enfin, on peut en dire quelques mots, mais peut-être on voulait demander qui était déjà allé à des actions des soulèvements de la terre parmi vous. Ok. Vous avez identifié quoi comme question à quel...
Parce qu'il y a des gens qui ont déjà lu le livre.
Ouais.
Qui est sorti il y a plusieurs mois.
C'est pour ça. Ok. Ouais, c'est bien. Sans plaisir d'apporter quoi.
Et est-ce qu'il y a des gens qui arrivent en se disant genre je vois pas du tout ce que c'est les soulèvements de la terre.
Est-ce qu'on fait quand même un petit topo sur comment ça s'est constitué et Mais en tout cas, oui, du coup, comme tu disais tout à l'heure, l'aventure, elle commence en plein confinement, quasiment, deuxième confinement, si je ne dis pas de bêtises, où il y a, à l'initiative d'un groupe plutôt, en effet, autour de Notre-Dame-des-Landes, pas uniquement, mais quand même, qui convoque différentes personnes, parce qu'il y avait des liens préexistants, à réfléchir à constituer un mouvement qui aurait pour cœur un peu la défense des terres agricoles. et qui voudrait réfléchir à comment, je sais pas, combattre un peu ceux qui se les accaparent qui les détruisent. Mais du coup, là, assez rapidement, ils se sont identifiés ce qui va continuer à être aujourd'hui un peu le mouvement, c'est-à-dire trois, quatre grands acteurs, on va dire, qui maintenant sont un peu fusionnés et fonctionnent beaucoup ensemble. Mais c'est sûr qu'il y a des histoires politiques différentes, et donc il y a pas mal de gens qui viennent, alors ce qu'on appelle la jeunesse pour le climat, quoi, ça Climate, ce genre d'organisation. Et des gens qui s'organisent autour d'actions vraiment prétendant écologistes et qui ont plutôt des jeunes militants, on va dire, qui ont un peu, éprouvé les manifs de masse, là, les Fridays for Future, et qui vont envoient aussi les limites. Et qui, donc une partie d'entre eux, évidemment, pas, il y a des alliances qui se créent avec une partie de ce mouvement-là, quoi. Il y a assez rapidement des gens de la Confédération paysanne ou des syndicats paysans des paysans en lutte qui sont contactés. Et donc la branche un peu plus, on va dire, autonome, qui est un peu plus à l'initiative des occupations, de l'occupation de terre à Notre-Dame-des-Landes notamment. Et donc il y a ces trois grosses entités qui décident de créer ce mouvement-là et qui décident un peu d'aller à la rencontre de lutte locale et de se dire, nous, on va créer un mouvement qui ne va pas nécessairement monter ses propres terrains de lutte, comme ça a été fait à Notre-Dame-des-Landes, mais qui va essayer d'aller en appui à des luttes locales qui sont déjà constituées et les aider à passer des caps, franchir des seuils, à s'organiser, se constituer, se structurer et d'essayer à la fois, à travers du travail d'enquête, d'aller identifier, même si ça, souvent les luttes locales l'ont déjà fait, plutôt assez bien fait, mais d'aller identifier les endroits où on peut peut-être aller taper, les cibles, si on a bien identifié toutes les cibles, d'essayer de les mettre un peu plus à l'agenda national, on va dire. Alors ça a extrêmement bien marché avec les bassines, on ne va pas forcément trop parler d'histoire, parce que beaucoup de gens sont assez informés et qu'on n'a pas prévu de le faire, mais même si ici, à un moment, il y a un peu un risque autour de ça. Aussi parce que, comme on disait, il y a pas mal de gens qui sont situés dans l'ouest de la France et que la proximité géographique l'aide à la constitution de ce front. Et les soulèvements de la terre, ça reste un peu ça. C'est des gens qui, à la base, ne se connaissaient pas forcément tous et toutes bien et qui viennent de trajectoires politiques un peu différentes, mais qui ont un peu. Le constat de base, c'est un peu. On en reparlera sûrement après, mais c'est un peu. Il se fait grâce notamment à l'alliance à la ZAD entre paysans, squatteurs, autonomes, d'identifier qu'il y a sur le foncier agricole en France un enjeu extrêmement important, majeur. C'est qu'à l'époque, il y a 3 ans, du coup, je ne sais pas où en sont les chiffres, mais il se dit qu'il y a à peu près la moitié de la surface agricole française qui va être transmise. Vous voyez, des exploitants agricoles qui partent à la retraite, qui vont, du coup, ces terres-là, elles vont être. Disponibles, et pour qu'elles soient disponibles, pour les gens qui seront en mesure de les prendre et de les récupérer, et la tendance, elle est assez claire que ça sera vers l'agrandissement, l'accaparement, et qu'il y a eu la volonté d'essayer de contrer ça. Alors, après, ça va prendre différentes formes, ça va s'exprimer de différents moyens. Je ne sais pas si il y a encore 2 mots là-dessus, mais sur les 3, et du coup, des échecs, ou en tout cas des limites identifiées dans les marches pour le climat ou du côté du syndicalisme paysan un syndicalisme paysan moins combatif, en tout cas après les années 70-80 de la période de Beauvais, des gens qui au sein même de la conf ont envie d'aller retourner vers des formes d'action directe de masse, et pourquoi pas de masse. Il y a différentes stratégies qui vont être portées, c'est-à-dire aller bloquer, désarmer et occuper différentes cibles, quoi. C'est un peu les 3 grands moyens d'action que se donne le mouvement à la base, en se disant on va mettre en place des actions qui ne seront pas uniquement juste revendicatives, mais on va directement dans nos actions. On verra que ça marche plus ou moins bien, c'est plus ou moins facile, c'est plus ou moins efficient, mais quand même c'est ça l'espèce de logiciel initial, c'est de se dire nous on veut aller aussi vers des actes un peu impactants, quoi. Ce qui va soulever plein de questions, mais
Je rajouterais juste dans les différentes composantes du mouvement, il y a aussi des liens qui ont été recréés, notamment dans les actions, avec les organisations syndicales qui n'existaient pas vraiment. Quoi. Chacun luttait dans son coin. Et grâce aussi à des liens qui ont été créés de solidarité, de soutien aux luttes, déclenché aussi par les organisations syndicales dans le cadre de toute la lutte très longue contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y avait des gestes de solidarité et déjà du réseau qui s'était recréé avec des organisations syndicales pour amener par exemple des légumes, soutenir des luttes, les grévistes, etc. Et c'est vrai que je trouve qu'un point fort de ce mouvement, c'est d'avoir réussi à recréer des possibilités de lutter ensemble qui étaient relativement effacées depuis un certain nombre d'années, de recréer du réseau pour des luttes communes sur des terrains qui n'étaient pas forcément évidents pour se réunir dans la lutte et être plus forts.
Je rebondis juste parce que tu parlais d'action et d'occupation et de sabotage. La première partie, justement sur le béton, elle s'ouvre sur un récit de sabotage. Est-ce que du coup tu peux nous parler de ce que c'est que cette première partie qui s'appelle l'hypothèse du désarmement du béton, de l'industrie du béton?
Alors nous on parle pas de ça. Le vocabulaire consacré ne dit pas sabotage, dit plutôt désarmement. Enfin, bon, ça a été et ça reste je ne sais pas si c'est une pirouette de langage, mais pas que, mais en tout cas, je pense que initialement on avait un peu du mal à assumer le côté sabotage, et toujours aujourd'hui, parce que ça renvoie à tout un imaginaire de plus de répressif, quoi. Mais on vous a préparé une petite lecture justement pour aussi aller chercher aux origines et aux racines un peu de ça. Et du coup, on a plus parlé de désarmement aussi parce que ça permet aussi, dans le terme même, de venir dénoncer. C'est un terme qui permet de dénoncer aussi ce à quoi on s'attaque, les cibles, quoi. C'est-à-dire qu'on considère que les infrastructures qui vont être attaquées, ciblées, éventuellement détruites, sabotées, elles sont en fait elles-mêmes des armes. Et que c'est contre ces armes-là qu'on agit, quoi. Et qu'on va les désarmer, quoi. C'est les armes de la destruction, c'est les armes, que ce soit écologique ou sociale. Hein, voilà. Je sais pas si on commence peut-être cette lecture. C'est renouer avec une histoire obscurcie. Dès l'introduction des premiers métiers à tisser industriels au début du XIXe siècle, les artisanes et artisans anglais, asservis par la mécanisation, organisent, armés et masqués, des raids dans les nouvelles usines. Pour se rendre insaisissables, ils se rallient à un chef imaginaire, un certain Ned Ludd, ouvrier qui aurait détruit les métiers à tisser pré-industriels autour de 1780. Le ludisme entre dans l'histoire comme le premier mouvement contre la machinisation du monde et à pratiquer le désarmement en s'en prenant directement et physiquement aux machines qui nuisent.
La destruction des machines est une pratique répandue depuis le XVIIe siècle jusqu'aux années 1830. Elle n'est d'ailleurs pas l'apanage des critiques de la machine, mais emporte l'adhésion d'hommes et de femmes décidés à exercer un rapport de force avec le patronat. Les tondeurs de draps, les ouvriers agricoles, les ouvriers des mines ou des usines n'hésite pas à détruire les machines, mais aussi les matières premières, les produits finis, ou même la propriété privée des employeurs, selon le type de dommages auquel ces derniers sont le plus sensibles. Tout au long de cette période, la prégnance de ce qu'on peut appeler une négociation collective par l'émeute...
Contrairement au pendu, le sabotage fonctionne.
L'aventure du sabotage ne cesse pas avec l'avènement des grandes organisations syndicales et le raffinement de l'industrialisation. Émile Pouget, qui incarne l'une des tendances révolutionnaires au sein de la CGT au début du XXe siècle, théorise le sabotage dans une brochure du même nom, où il raconte
« Au dernier congrès corporatif de Toulouse, où s'étaient amenés quantité de bons fieux envoyés par les syndicats des quatre coins de la France,
le sabotage a été acclamé bougrement. Ça a été un enthousiasme faramineux. Le sabotage, c'est le tirage à cul conscient. C'est le ratage d'un boulot. C'est le grain de sable roublardement fourré dans l'engrenage minutieux pour que la machine tout saute. C'est le coulage systématique du patron. Tout ça pratiqué en douce, sans faire de manne ni d'épate. Voilà donc le sabotage chouettement défini. Un mauvaise paye, mauvais travail.
Entre octobre 1910 et juin 1911, les services de police recensent plus de 3000 actes de sabotage ouvrier.
Les théoriciens du sabotage produisent également une critique de la violence, qui n'est pas inutile par temps de dérèglement climatique. L'historien américain Lossine décrit avec précision comment s'élabore dans tout un répertoire de chansons, de tracts, de pamphlets et de poèmes émanant des rangs du syndical Industrial Workers of the World, une distinction entre le sabotage ouvrier, source de pouvoir des exploités et réservée aux biens inertes, et le sabotage capitaliste, dont la violence s'exerce sur les corps et les vies des travailleurs.
Le sabotage circule à travers les luttes, notamment écologiques. On peut ainsi évoquer l'action menée par un commando, puis Antich Ulrike Meinhof, dont se réclama la pionnière de l'écoféminisme Françoise Daubonne, contre le projet de centrale nucléaire de Fessenheim, dont le chantier fut plastiqué en 1975. Une action justifiée en ces termes.
Nous revendiquons ce sabotage. Nous espérons retarder ainsi au maximum ou à jamais sa mise en route. Nous avons pris toutes précautions possibles pour que ne soit menacée nulle vie humaine. La pollution est elle-même une bonne affaire pour les multinationales qui vendent ce qui ne l'avait jamais été, l'oxygène et l'eau, devenus marchandises. La productivité forcenée est devenue l'ennemi planétaire. Nous appelons ceux qui nous approuvent à en faire autant.
L'éco-sabotage, qui essaime depuis plus d'un demi-siècle, ne désigne pas nécessairement des actions d'une telle ampleur. Il renvoie d'abord à un ensemble de pratiques, aussi populaires que malicieuses, dont les mille et une techniques sont synthétisées dans le fameux guide Eco-Defense. Des énormes fêtes sauvages du mouvement Reclaim the Street au Royaume-Uni dans les années 90, au cours desquelles des militants forent les routes au milieu des danseurs, jusqu'aux petits groupes nocturnes ou aux foules diurnes qui agissent dans les champs d'OGM et les ZAD. Les élans d'arrachage, de déboulonnage, de crevaison et autres feux de joie ont toujours accompagné les grandes mobilisations écologistes.
Ils illustrent ce principe d'accessibilité mis en avant par le groupe autonome Os Cangaceiros lorsqu'il s'attaque dans les années 1980 à la planification de 13 000 nouvelles places de prison, notamment en vidant des dizaines de sacs de sucre dans les toupies de béton des chantiers. Nous avons toujours prôné un mode d'action auquel n'importe qui pourrait avoir recours, sans connaissance technique particulière, à savoir le sabotage et l'incendie, qui ont toujours constitué les modes d'action des pauvres.
Outre le fait d'exhiber les conflits profonds qui traversent nos sociétés, le sabotage est aussi utilisé pour éclaircir des situations politiques ou des hypothèses. C'est tout le pari du Front populaire de libération de la Palestine lorsqu'il décide de lancer une campagne de sabotage de pipelines en 1969, visant notamment l'oléoduc transarabique appartenant à la société nationale saoudienne dans le Golan occupé par Israël. Ici, le sabotage correspond à une critique en acte, un moyen de communiquer des idées, une forme de propagande pour désigner les ennemis politiques de la lutte de libération nationale palestinienne et susciter la propagation de ce type de pratique.
Nous ne pensons pas que les désarmements menés par des coalitions auxquelles participent les soulèvements de la terre suffiront à défaire intégralement les logiques de prédation que nous combattons. L'immensité de la tâche ne nous a pas échappé. Si les constructions de bassines vont considérablement plus tard que prévu, la vie n'est pas derrière nous. Il s'est dit que quelques jours après avoir été saccagée, l'usine à ciment de Bouc-Bel-Air reprenait tranquillement la production.
L'enjeu réside donc tout autant dans le succès des campagnes, où le désarmement s'inscrit dans un continuum de pratiques diverses, que dans la diffusion d'une culture du désarmement. En arrachant cette tactique du placard où la légalité bourgeoise et l'histoire des vainqueurs ont voulu la ranger, nous faisons le pari qu'elle peut jouer un rôle déterminant dans le basculement de l'ordre des choses.
Non seulement le désarmement doit s'élever à une échelle de masse s'il veut être opérant, mais il ne constitue par ailleurs que la face négative d'un travail politique de longue haleine.
Un peu plus qu'une tactique, un peu moins qu'une stratégie, le désarmement est une hypothèse à déplier dans toutes ses dimensions pour espérer se porter à la hauteur de l'urgence et renouer avec le sens de l'offensive.
Ça, c'était c'est des extraits qui sont tirés de la première partie des armées de Béton. Si je me trompe pas. La deuxième partie, elle s'intitule donc « Démanteler le complexe agro-industriel ». Et c'est un très gros mot qui recouvre encore plein de choses. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est le complexe agro-industriel ? Définir un peu.
Eh bien,
qu'est-ce que ça recouvre, et peut-être aussi de par les lectures, peut-être illustrer ce que signifie l'hypothèse du démantèlement.
Eh bien, le complexe agro-industriel, c'est un conglomérat de grosses sociétés agricoles qui accaparent la terre et l'eau.
C'est une multinationale de fermes familiales prises en étau entre, d'une part, les fournisseurs de semences, pesticides et machines en vermouth, et d'autre part, la collecte, transformation et distribution des produits agricoles en aval.
C'est souvent les mêmes groupes agroalimentaires qui sont à l'amont et à l'aval.
Et c'est aussi un millefeuille d'organisations professionnelles, d'administration bureaucratique et de politique publique.
C'est des organismes de recherche, d'enseignement et d'accompagnement technique.
Et c'est enfin un secteur économique doté de ses propres services financiers, les banques, les assurances, etc.
Saisir cette réalité nous invite à cesser de raisonner uniquement depuis les exploitants agricoles. Celles et ceux qui font tourner le complexe agro-industriel, ce sont aussi et surtout des masses d'ouvriers et d'ouvrières agricoles, des travailleuses et des travailleurs saisonniers, des opérateurs d'abattoirs, des caisses et des caissières et des caissiers de supermarchés, d'agents logistiques, d'employés des usines de transformation agroalimentaire et de la chimie.
Là réside sans doute une piste de travail pour l'avenir des soulèvements de la terre. Dans la difficulté à articuler finement le nécessaire démantèlement des infrastructures écocidaires et l'émancipation sociale des travailleurs et des travailleuses qui les font pourtant tourner.
Comment s'y prendre bout par bout pour que démanteler, ne signifie pas désindustrialiser et délocaliser ?
Manifestement, un secteur aussi puissant et nocif ne pliera pas devant une transition agroécologique en douceur. Nous prenons part à la prolifération des alternatives, tout en ayant bien conscience qu'elles sont insuffisantes pour infléchir les ravages de l'agro-industrie. Notre hypothèse est que la généralisation et la popularisation des désarmements portent en elles la perspective du démantèlement.
Le désarmement est réparable.
Le démantèlement est permanent et irréversible.
Le désarmement est ciblé, il affecte un rouage.
Le démantèlement est systémique, il défait la structure. Il exprime l'ambition d'une déconstruction progressive, d'une mise à l'arrêt pan par pan.
Les deux gestes s'articulent et s'alimentent.
Au fond, il n'y a pas de lutte locale. Il n'y a que des luttes situées qui appellent leur propre dépassement. La cible logique, c'est celle dont le désarmement entraîne le vacillement de toute la chaîne.
Oui, logique, mais un peu facile à dire. C'est quoi alors les cibles ?
Voici ce que pourraient être, par exemple, les axes d'un programme d'action contre la filière maïs industrielle.
Alors, préparez-vous, il y en a quatre, il y a beaucoup de choses à faire. Enquêter.
Enquêter à prendre, ouais, mais ça, c'est à dire.
Établir par nos enquêtes une cartographie territorialisée de la filière maïs et de ses points névralgiques. S'atteler à une dynamique d'éducation populaire pour transmettre les outils techniques nécessaires à un tel démantèlement. D'une part, les savoir-faire paysans sur les alternatives au maïs industriel. D'autre part, les savoir-défaire, le bon usage du blocage, du désarmement et des occupations par les mouvements de lutte.
Rien que ça.
Non, c'est pas tout. Ce travail d'enquête et d'éducation populaire est à même de construire une culture du discernement, c'est-à-dire de donner à chacun et chacune les outils pour distinguer le maïs industriel du maïs cultivé par les éleveurs petits et moyens, démanteler est un processus qui commence par le haut, et certainement pas par le bas. Il s'agit donc d'attaquer les fragilités, les mastodontes du secteur, les pionnières, les magrins, Monsanto, etc.
Grand 2. Leur couper l'accès à l'eau et à la terre. Empêcher l'arrosage de leur maïs en été et le remplissage des méga-bassines en hiver. Amplifier le harcèlement juridique et administratif contre les gros irrigants. Déployer une stratégie foncière pour contrer l'agrandissement des méga-sociétés agricoles.
On est bien, grand 3. Bloquer les flux.
Ah, mais voilà.
Mener des campagnes de blocage routier, ferroviaire et portuaire, ajustées au moment critique de cette production à flux tendu.
Ah, c'est pour ça qu'on est allé se faire gazer à La Rochelle.
Déranger non seulement l'export, mais l'acheminement du maïs grain des zones de culture vers les fermes-usines.
Grand 4. Enrayer chaque maillon stratégique. Déstabiliser l'aval et l'amont, le suivi, les traitements, la récolte, le stockage, la distribution. Par exemple, il est possible d'annihiler à la source les productions de semences industrielles. Par des semis de maïs population, nous pouvons rendre inopérants les processus de sélection et de production des semences industrielles.
Du sabotage par le semis. On a déjà fait ça.
Oui, mais de manière trop limitée encore. Reproduire ce geste simple chaque printemps à 10, 100 000, s'appuyer sur un réseau de fermes volontaires pour produire des semences paysannes et constituer des réseaux de distribution partisans à cet effet.
Recommencer jusqu'à ruiner les semenciers industriels jusqu'au démantèlement de la filière. Peut-être on peut expliquer en deux mots, c'est un peu cryptique la fin. En vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, de manière trop limitée encore, mais quasiment tous les gestes qui sont nommés ont commencé à être faits, quoi. Et notamment cette histoire de semis. Il s'agit donc de saboter une activité qui est incarnée par un métier qui s'appelle les multiplicateurs, qui sont des paysans qui sont totalement dépossédés de leur savoir-faire artisanal de paysans pour être transformés en machines à reproduire des semences pour les semenciers. Qui possède le brevet de ces semences, ainsi que le marché pour les écouler, puisqu'ils produisent ces semences-là, pour ensuite les distribuer à d'autres paysans avec lesquels ils sont sous contrat. Donc c'est un endroit exemplaire en fait du type de production qu'on dénonce dans ce qu'elle incarne comme organisation sociale, de dépossession notamment des paysans pour aller vers un modèle industriel. Mais donc les petites graines sont dans la terre, quoi. C'est pas évident à lacérer au cutter comme on pourrait le faire avec une bâche d'une bassine. Et donc l'idée qui a été faite, c'est de ressemer par-dessus du maïs paysan qui va venir en fait perturber la culture et à la fois faire pousser du maïs qu'on aime mieux que celui qu'ils avaient fait et aussi empêcher concrètement la chaîne de valeur de se poursuivre puisque du coup la production va être mélangée. Et donc le semencier ne pourra pas exploiter de la manière dont il avait prévu son champ. Voilà. Et donc c'est ça qui est évoqué à la fin de cette lecture. Et ça a effectivement été fait cet été, mais d'une manière relativement limitée, comme c'est écrit. Et il y a effectivement des gens qui sont en train de s'organiser pour faire circuler ces semences de maïs paysan et qu'un maximum de petits groupes puissent y compris faire ça. Dans des champs à côté de chez eux, sans forcément que les mots se soient revotés, médiatisés pour propagande, mais aussi un sabotage très concret où, en fait, à divers endroits, les semenciers constatent que dans leur champ, il y a de la diversité qui n'était pas prévue. Voilà.
Et a priori, ça a l'air assez, c'est quand même très très efficient. Cet été, c'était en Limagne, là, la plaine de Limagne, qui est au pied des voitures d'Auvergne. Une grande plaine céréalière qui a été complètement mise sous cloche. Enfin, vraiment, il y a une espèce de périmètre je ne sais plus combien de hectares, mais qui est assez vaste, dans lequel l'Imagrin, cette multinationale qui vraiment reproduit la semence à une échelle délirante, a plusieurs dizaines d'agriculteurs qui font uniquement ça, et que le fait de jeter, alors je ne sais pas, c'était pas quelques graines, mais en tout cas de venir distribuer ces graines de maïs population au sein de plusieurs de ces parcelles par des phénomènes de pollinisation, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, bien vraiment, ouais, saluter. Enfin, et eux, pour s'imaginer qu'il y a toute une grande zone comme ça où il
font absolument que ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de croisement avec d'autres variétés. Et que venir s'insérer en plein dans cette zone-là, c'est un pari, une tentative. Et que ça, on va en parler après, mais c'est aussi possible parce qu'il y a eu un gros travail d'enquête qui a mêlé des gens qui s'intéressent peut-être plus à la question un peu sabotage et des paysans qui connaissent très très bien la production de la sémence.
Donc là, on parle de semis, d'agriculture industrielle. Par rapport à ça, comment on peut viser, du coup, la perspective de subsistance qui est donnée dans le livre? On parle dans le livre de subsistance, est-ce que même je ne sais pas si le terme de subsistance est bien compris par tout le monde, est-ce que peut-être on peut revenir dessus et l'expliciter?
Oui, sur ça, en fait, les soulèvements de la terre n'inventent pas grand-chose. C'est vraiment l'idée de défendre ce qui a été élaboré par le syndicat international qui s'appelle la Via Campesina, qui défend depuis des décennies des pratiques agricoles de subsistance dans le monde entier contre l'agriculture industrielle. Et donc, qui a démontré par la pratique et par aussi les rapports d'experts qui calculent tout ça, qu'il est plus efficace à l'échelle mondiale que chacun, chacune cultive ce qui pousse bien par chez lui à des échelles territoriales peuvent inclure des échanges mais qui ne sont pas mondiaux, plutôt que cette agriculture spécialisée par territoire qui fait qu'on a un continent entier en Afrique qui se nourrit de riz qui vient d'Asie et qui ne produit quasiment que des produits agricoles qui partent en Europe et qui est complètement délirant, quoi, écologique, et qui a été une politique qui a été poussée très activement par les institutions internationales et de dire c'est comme ça qu'il faut les faire, et si vous ne faites pas comme ça, on vous coupera les fonds. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout des choses qui viennent des soulèvements de la terre, mais en gros la défense de l'agriculture de subsistance face à un schéma mondialisé et spécialisé, c'est en gros ça, et ça a été dit par plein de gens de partout, mais nous comment on se raccroche à ça, c'est effectivement via la participation de la Confédération Paysanne qui est adhérente à la Via Campesina et qui défend ces idées-là qui ont été aussi très popularisées au moment de la lutte contre les OGM. Et voilà, et qui s'incarne concrètement aujourd'hui en France dans tout le réseau de l'agriculture biologique, du circuit court, des AMAP, des industries locales, et donc de structures pas forcément toutes petites, mais qui ne sont pas des fermes-usines, et qui vont de la structure professionnelle à échelle raisonnable, jusque aux pratiques comme celle à Dijon du quartier des Lentillères ou des jardins ouvriers familiaux qui subsistent et qui vont consister aussi hors commerce à faire pousser simplement des choses dont on a besoin et donc à défendre partout la capacité des gens à pouvoir cultiver simplement des choses sur des terres, que ça soit dans un modèle professionnel et viable économiquement ou dans un modèle à proprement parler de subsistance familiale et communautaire. Et donc effectivement l'idée c'est de défendre ça partout contre un modèle d'accaparement et d'agriculture industrielle.
Et je pense qu'en plus de la vision de la Via Campesina, il y a aussi la pensée écoféministe qui est venue ajouter un peu ce que tu as déjà un peu évoqué, mais qui est un peu comment c'est pas qu'une question d'agriculture vivrière, c'est aussi comment on crée des conditions de vie et de liens sociaux où il y a en effet du producteur, du consommateur, c'est aussi par la création de communautés, de liens sociaux, et qu'on peut tendre vers une pratique de la subsistance. Quoi. Cette dimension-là.
Peut-être pour retomber sur nos pattes par rapport à ce que font les soulèvements là-dedans, en premier à l'esprit, c'est effectivement les actes et les campagnes contre l'agriculture industrielle, incarnée notamment par cette sorte de bassine, qui consiste à piquer de l'eau pour produire du maïs, qui va massivement nourrir des bêtes à l'export. Il y a aussi eu des actes de défense de quartiers, notamment un quartier cousin des Lentillères, qui sont les Vettes à Besançon, qui sont donc un de ces endroits nombreux et multiples où il y a des choses qui poussent d'une manière chouette et qui ont été l'objet d'un acte de soulèvement. Et puis il y a une autre dimension qui sont les greniers des soulèvements de la terre, qui ont été l'initiative de certains comités de se dire on ne va pas simplement participer à des luttes locales et puis partir sur des actes nationaux pour aller faire des manifs une fois de temps en temps. On va aussi s'organiser activement autour de cette question de la subsistance. Par exemple,
en négociant avec un paysan du coin le fait d'avoir accès à un petit bout de sa terre et de s'en occuper collectivement pour produire des légumes, soit pour se les partager, soit pour emmener sur des cantines pendant des événements, avec cette idée que on organise plusieurs fois par an des événements à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Et donc notre horizon, c'est d'être en capacité à l'échelle du mouvement de se nourrir déjà pendant ces événements-là. Et donc d'avoir pendant toute l'année des personnes actives dans les soulèvements qui s'occupent de petits bouts de terre pour produire des légumes qui ensuite vont être mangés à ces moments-là. Et donc c'est des gens qui ont commencé à faire ça à droite à gauche. Et maintenant, il y a eu un appel national à essayer de développer ça sous cette espèce de nom des greniers des soulèvements. Et donc qui est aussi une manière pour les soulèvements de la terre de participer à, ce, à cet élan vers la subsistance. Quoi.
Je voudrais juste rajouter une dernière chose. Ce qui est intéressant aussi dans cette idée de la subsistance, c'est aussi de redonner un peu, entre guillemets, ces lettres de noblesse à la paysannerie qui est complètement dépossédée depuis pas mal de temps justement par l'agro-industrie de ce sont des personnes qui nous nourrissent et qui avaient un rôle social vraiment lié à ça pendant très longtemps et qui ne doivent pas être seules d'ailleurs dans cette idée de devoir nourrir tout à chacun. Et en fait, en ce moment, on voit aussi une accélération justement de cette perte de sens du travail des agriculteurs par notamment l'accaparement des terres pour mettre des panneaux photovoltaïques. Et là, je parle un peu, j'ai fait un peu ma chapelle entre guillemets parce que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Mais en fait, on voit, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, en plein endroit en France, il y a des champs qui sont utilisés pour mettre des hectares de panneaux photovoltaïques. Des fois, ça peut aller entre 70, 100 hectares de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles, où l'idée, ça serait de l'agrivoltaïque, ça s'appelle. C'est un nouveau mot qui a émergé il n'y a pas longtemps. Et donc, ça fait que le sens même du travail du paysan et de l'agriculteur change complètement. Et que même s'ils ont l'idée que soi-disant on peut faire de l'élevage en dessous, soi-disant on peut faire du maraîchage en dessous, donc pour l'instant c'est peu probant, parce que ça commence tout juste et on a du mal à imaginer tout ça. En fait là il y a une transformation même du travail du paysan vers quelqu'un qui va produire de l'électricité. Et c'est plus la même chose, il y a vraiment un paradigme où on a l'impression que ça va basculer quoi. Donc c'est aussi ça qui est intéressant de repointer l'importance de la subsistance chez
Chantal, tu veux
venir
lire un passage?
Oui, pourquoi pas. C'est juste, ça fait appel à une forme de sagesse, puisque c'est un conte maya, je vais le lire, mais qui porte un potentiel de réflexion sur quel outil de lutte il faut utiliser à un moment donné. Donc ça fait réfléchir aussi à la stratégie. Ça s'appelle Polymorphie Maya. Un jour, le sous-commandant Marcos s'assoit au bord d'une rivière dans un village reculé. Le vieil Antonio, vénérable doyen conteur, lui raconte un mythe maya que lui ont transmis les arbres. C'est l'histoire de l'épée, de la pierre et de l'eau. L'épée se dressa et dit « Je suis la plus forte. Je peux vous détruire tous. Mon tranchant coupe et donne pouvoir à celui qui me porte » est mort à celui qui me fait front. » L'arbre lui rétorqua que c'était lui le plus fort parce qu'il avait résisté aux plus féroces tempêtes. L'arbre et l'épée combattirent. L'arbre se fit dur et ferme face à l'épée. Celle-ci le frappa encore et encore jusqu'à l'abattre. La pierre défia à son tour l'épée. « La plus forte, c'est moi, car je suis dure et ancienne, lourde et pleine. J'ai résisté au temps qui passe. » L'épée et la pierre combattirent. La pierre se fit dure et ferme face à l'épée. L'épée frappa encore et encore. Elle brisa la pierre, mais ne put la détruire. L'épée finit le combat tout émoussée et la pierre en morceaux. Elles pleurèrent toutes deux sur leur inutile bataille. Pendant ce temps, l'eau du ruisseau coulait, indifférente. L'épée la toisa. « Toi, tu es la moins forte de tous !» L'épée se jeta contre le ruisseau. Elle fendit aisément l'eau qui ne se fit point dure et ferme face à elle. Mais l'eau reprit immédiatement sa forme. Le temps passa et l'épée rouilla jusqu'à perdre son tranchant. Elle se lamenta. « Je suis plus forte qu'elle, mais sans même combattre, elle m'a vaincue. » Elle repartit couverte de honte, sans comprendre pourquoi ni comment, ayant gagné, elle avait perdu. De ce mythe maya, les anciens ne tirent pas la morale attendue. Ils n'en concluent nullement la supériorité de l'eau. Ils nous disent « Parfois, il faut se battre comme l'épée, face à l'animal. D'autres fois, comme un arbre, face à la tempête. D'autres fois encore, comme la pierre, face au temps. Mais parfois, il faut se battre comme l'eau, face à l'épée. Même si nous n'avons pas toujours la possibilité de choisir, il nous appartient de discerner à chaque instant du rapport de force quand se faire épée, arbre, pierre ou eau, devenir polymorphe. »
Après le désarmement du béton, après le démantèlement du complexe agro-industriel, on s'attaque à la troisième partie, en fait, qui sous-tend en fait cette partie-là qui est la reprise des terres. C'est la troisième hypothèse, et sans les deux premiers, c'est comme si cette hypothèse de la reprise des terres, elle ne fonctionnait pas vraiment. Et, du coup, qu'est-ce que ça implique en fait, la reprise des terres? De quoi on parle quand on parle de ça?
Moi, je sais pas, est-ce qu'on part directement dans
le premier répond pas à la question, oui, c'est peut-être passer directement à 173.
Du coup, dans l'idée de la perspective de reprise de terre, pour reprendre ces terres, nous avons besoin de paysans et de paysannes. Par nos mots et nos gestes, nous voulons susciter de nouvelles vocations et défendre une classe sociale sur le point de disparaître en France. Loin de se réduire à un plan de carrière, la vocation paysanne se fonde sur une conscience politique et une quête de sens. Elle s'offre à celles et ceux qu'elle appelle, comme une manière de prendre à bras le corps la question du soin de la terre et des autres. Mais la lutte pour les terres agricoles nous concerne tous et toutes. Ce n'est pas qu'une affaire de paysannes ou de paysans. Loin de nous l'idée de les ériger en sujets révolutionnaires voués à accoucher de l'histoire. Notre hypothèse politique est que le devenir des terres nourricières est profondément imbriqué avec les grands conflits politiques, écologiques et sociaux de notre époque. Il détermine les conditions matérielles de nos existences. Tout le monde ne peut pas devenir paysan, mais tout le monde peut s'organiser collectivement pour reprendre la main sur le cours de nos vies. Et donc, sur les terres aussi. Ça, c'est moi qui rajoute. Et moi, juste de dire que ce passage, j'ai choisi parce que, justement, ça nous appelle tous à vraiment s'engager dans la reprise des terres. Effectivement, ça n'apprend pas que aux paysans, paysannes de se défendre contre l'accaparement et que on doit tous s'intéresser à ça parce que ça va directement impacter nos vies et pas les points de vue de notre santé, les aliments qu'on peut ingérer, mais aussi ça va impacter les paysages, ça va impacter la manière dont vont s'organiser, dont va s'organiser la société, et ça le fait déjà d'ailleurs, la manière dont la métropolisation prend une place de plus en plus importante sur le territoire et change vraiment cette manière de nous rapporter les uns les unes aux autres. De se dire qu'en fait, la campagne, la ruralité, ce n'est là que pour alimenter les villes. Enfin voilà, il y a tout ça. Et toutes ces questions-là, elles se traduisent par, effectivement, cette manière de lutter contre l'accaparement des terres. Et il faut vraiment que ce soit quelque chose que, tout à chacun, on se doit de combattre, en tout cas, et de s'investir dedans. Et moi, c'est ça qui m'interpelle dans ce passage, c'est que ça nous invite tous à le faire, quoi. Et que c'est une question sociétale, vraiment.
Je pense qu'on peut lire l'esprit suivant qui est explicite, mais
pour compléter ça, la Confédération paysanne dit qu'il faut installer 1 million de paysans et paysannes si on veut revenir à une agriculture paysanne, un peu plus de subsistance, de vivrière, en sachant qu'aujourd'hui il y a 500 000 à peu près exploitants déclarés. Et comme je disais tout à l'heure, là, il y a la moitié des terres de ces paysans qui sont déclarés qui vont passer, qui vont changer de main, qui vont, du coup, la bascule foncière, c'est maintenant, c'est là qu'il faut la penser. Sauf que, on fait face à
Une grosse difficulté, c'est que les installations agricoles qui existent aujourd'hui, elles ne sont pas dimensionnées de toute façon à être reprises par, pour de l'agriculture paysanne, parce qu'elles sont déjà trop grosses. Elles sont déjà surdimensionnées. Il y a un problème d'accès à ces structures-là. Et les expériences et les possibilités de transmission, elles sont très dures à mettre en place. Là, il y avait la conf ce week-end. J'ai discuté avec un paysan qui est un peu avant l'Aussois, dans la vallée de l'Auze ou de l'Auzerin, je ne sais plus laquelle, enfin bon, ou sous Salmen. Et il expliquait, lui, il a constitué une ferme qu'il aurait pu vendre 1 million. Mais bon, c'est un paysan hyper engagé, et il a réussi à transmettre à 3 personnes. Et c'était un peu une sorte d'exploit. Il en a tiré 400 000 euros, il y a 1 million qui aurait pu se compter, mais bon, il a fait ce choix-là, c'était un vrai choix politique, quoi, et il est ultra engagé. Et nous, si on n'a pas des gens qui font ça, c'est très dur. Donc d'une part, il y a ces fermes qui sont très très dures à accéder, quoi. Et d'autre part, il n'y a pas assez de gens. Quand il y a des candidats, ils ne trouvent pas des fermes et il n'y a pas assez de candidats. Donc en fait, on est un peu dans une forme d'impasse. Et là-dedans, il y a un peu des pistes qu'on cherche depuis les soulèvements qu'on a déjà évoqués, hein, mais qui peuvent être, qui sont déjà, la première chose, c'est d'identifier où sont ces fermes, à qui elles risquent d'être transmises, et d'essayer de trouver en face les gens qui pourraient éventuellement vouloir les prendre. Et il y a une réflexion qui émerge et qui se met en place un peu, c'est d'essayer d'aller vers, des fois on appelle ça des comités locaux d'action foncière, qui pourraient avoir ce travail-là et qui pourraient être pris en charge par d'autres gens que par les paysans, les gens qui voudraient s'installer, qui consisteraient à faire ce travail d'enquête, aller voir où sont les fermes, les potentiels, et que ça ne incombe pas uniquement à des gens qui voudraient s'installer, de veiller à ce que la SAFER, qui est l'organisme de régulation normalement et de transmission, fasse bien son travail à l'UNIVA, face à ce que je demande Macron, et de voir à quel projet peuvent se construire. Il y a une très bonne expérience très intéressante du GFA de Malin, là, pour ceux qui le connaissent, qui parle un peu comme ça d'une initiative citoyenne, de gens qui se sont dit et de gens qui avaient envie de cultiver aussi, hein, évidemment, mais comment on fait pour aller chercher ces terres-là. Et ce travail-là, il se fait, mais c'est sûr que face à l'ampleur, des fois on peut être un peu découragé, mais quand même on dit que ça vaut le coup de tenter ça.
Est-ce que tout le monde sait ce que veut dire GFA?
Non.
C'est un groupement foncier agricole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, du coup, c'est tout un chacun. Moi, on peut acheter une part sociale dans ce groupement. Et donc, c'est les citoyens qui achètent les terres agricoles. Et après, des paysans, paysannes avec qui connaissent peut-être, vont s'installer sur ces terres. Mais donc, ça appartient à un citoyen. Donc, c'est ça qui est pris. En fait, sinon, ça peut tomber dans les mains de grands groupes comme LVMH, Chanel, L'Oréal, etc., qui sont en train d'accaparer énormément de terres nourricières en France. C'est pas seulement des gros agriculteurs industriels, il faut se rendre compte de ça aussi. Il y a vraiment une capitalisation des terres qui est faite par des énormes groupes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Et du coup,
Et pour des stratégies bien rodées, bien mises en place pour justement court-circuiter tous les quelques organismes de régulation qui existent en France, notamment cette affaire, qui est censé attribuer les terres avec des critères d'attribution, qui est censé privilégier les jeunes, les gens qui s'installent, tout ça. Et eux, ils mettent en place des sociétés, vous voyez, c'est des gens qui savent manier qui se débrouillent bien.
Ils mettent 4 fois le prix d'affaires,
Il y a de plus en plus de sociétés qui permettent de faire des montages financiers à l'école pour court-circuiter ces modèles de régulation.
Pour finir sur ça, on peut parler aussi de deux outils qui sont hérités des mouvements paysans, mais aussi de la gouvernance, disons, de la paysannerie par des États, qui sont la réserve foncière et la réforme agraire. Donc il y a des réflexions aussi dans le bouquin sur ces deux. Ces deux choses et comment il y a une histoire qui est faite de ces deux outils que je ne vous ferai pas tout raconter, je vous invite à lire le bouquin, et après une réflexion sur comment se réapproprier ces outils là. Donc la réserve foncière, c'est l'idée pour répondre au problème que tu identifiais, de dire en fait au moment où un cédant a besoin de vendre, il a besoin de son argent, quoi, pour céder sa terre au moment de sa retraite et de transmettre ses enfants, ou de payer son EHPAD ou je ne sais quoi. Et à ce moment-là, il y a un délai assez court où, en fait, les personnes qui souhaitent reprendre ne sont pas en capacité, comme tu l'as dit, de reprendre. Donc, un outil face à ça, c'est d'avoir une structure qui est capable de racheter les terres à ce moment-là et de les entretenir le temps de reséparer le foncier ou qu'une initiative soit en capacité de reprendre. Et ça, pour l'instant, ça n'existe pas ou très très peu. Donc, ça peut être une piste à la fois pour des collectifs citoyens type le GFA de Malin d'aller encore plus loin et de se dire pour l'instant c'est Malin, tu me trompes pas, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à cultiver, on trouve des terres, mais ça pourrait être de dire de multiplier ces initiatives là et du coup d'acheter des terres quand c'est possible en se disant on va trouver après. Et ça pourrait aussi être intégré à un programme conséquent gouvernemental écologique, de dire bah l'État va participer aussi à cette à cet effort-là, puisque c'est un outil, la réserve foncière, c'est un outil très classique de gestion du territoire qui est utilisé massivement plutôt pour faire des écoquartiers et des logistiques. En fait, la collectivité publique fait ça tout le temps, mais jamais pour l'installation paysanne. Ça pourrait aussi être glissé à l'idée. Et enfin, la réforme agraire, c'est plus l'idée à un moment d'identifier une situation qui ne convient pas et de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Eh bien, en fait, on va renégocier le découpage des terres rebattre les cartes de la propriété foncière avec des systèmes d'échange de terres ou de compensation pour la partie des terres, etc., qui a été faite à plein de moments dans l'histoire et dans le monde, souvent pour industrialiser l'agriculture, mais pas toujours, là aussi c'est raconté dans le bouquin. Et donc là, c'est plutôt de l'ordre des imaginaires à réouvrir, de dire en fait, il est envisageable de ne pas laisser cette situation d'accaparement et d'agrandissement permanent se dérouler jusqu'à son terme et jusqu'au fait qu'on n'ait plus qu'une quinzaine de groupes qui possèdent toutes les terres en France. Et de dire, bah, en fait, non, à un moment, si on a une action forte sur la propriété foncière, c'est envisageable, ça existait à plein de moments, et de réveiller ces imaginaires-là, et en se disant, bah, nous, on n'a pas trop l'idée d'une réforme agraire qui viendrait complètement d'en haut et de deux personnes, une de LFI, une des Verts, qui décident maintenant qui va avoir les terres. On a plutôt un imaginaire de mouvement par en bas, mais qui peut s'emparer, y compris, de ces questions-là, et de dire c'est pas indépassable, en fait, le fait que les terres appartiennent à un pays. Donc voilà les différentes pistes qui sont un peu évoquées dans le bouquin, depuis les impératifs très concrètes et tangibles jusqu'aux grandes idées de ce qu'on pourrait faire si on était plus nombreux et plus forts.
Merci. Donc c'est trois grands axes, en fait, de lutte du soulèvement de la terre. Ne peuvent se faire qu'il y a des gens qui sont là pour militer et des humains pour militer et pour être présents. Et c'est justement l'objet, en fait, de cette quatrième partie, dernière partie du livre, c'est comment, en fait, réussir à réunir tout le monde, en tout cas réunir une grande partie de la population autour de ces questions-là et de ces enjeux écologiques. Et il y a l'idée qui est quand même très forte dans ce livre, l'idée de la composition.
Excusez-moi.
Qu'est-ce que c'est cette idée de la composition?
Vous allez voir que la composition, structurellement, c'est un peu une des forces très importantes des soulèvements de la Terre. On va encore vous faire de la lecture. Donc, là, on parle donc du pari de la composition. Et entre autres, on va s'attarder sur un moment qui a eu lieu pendant la saison 2, donc au tout début des soulèvements de la Terre. Et ça s'appelle dans le livre Le miracle des crabes. Cranchabon, j'allais dire Cranchabon, mais c'est Cranchabon. Et donc, c'est le point de départ de cette composition qui, au début, au milieu des soulèvements, est encore un peu fragile et qui va pourtant se révéler très importante pour les différentes actions qui vont être menées tout au long des saisons et qui va évoluer. Donc, la lecture, c'est la Confédération paysanne voudrait se limiter à viser la pompe dans sa tradition bien établie du démontage contrôlé et circonscrit. Nous ne pouvons promettre que la foule résistera à l'envie de s'attaquer à la bâche. Elle a pour exigence d'agir à visage découvert et envisage le procès comme une étape pertinente de son combat. Nous entendons bien rester masqués et nous épargner le passage devant la justice. Mais la confiance née de la dernière action menée ensemble, les bons souvenirs du chantier de Mosée sur le Mignon et le désir de continuer à roquer ensemble font naître in extremis une vision commune.
Le lendemain, Alors que les lignes de gendarmes, encerclées et harcelées de toutes parts, se font la malle, une pompe est savamment démontée par des travailleuses en bleu, masquées, et par le porte-parole de la Confédération paysanne à visage découvert. De manière un peu plus débordante, la foule débâche la bassine à coups de cutter et y allume des feux de joie. Un bateau pirate entame un tour d'honneur, ponctué par une boum triomphale. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond in the sky.
Quelque chose de miraculeux a eu lieu, qui n'aurait jamais pu se produire sans les amitiés naissantes, sans une connaissance parfaite du terrain, de la situation juridique de chaque bassine, sans une capacité à percer ou contourner les lignes de police tout en évitant un affrontement en vain, sans l'appui des tracteurs pour marquer l'assise matérielle et symbolique du cortège, sans un goût pour le rocambolesque épique.
Donc en fait, cet épisode, il a été assez marquant. Parce que justement, au début, c'était pas très bien parti. C'était une bassine qui devait être prise. Et en fait, à l'intérieur, il y avait la FNSEA qui était prêt à en découdre. Il y avait les forces de police qui formaient un peu un fortin autour de cette bassine en bloquant tous les axes. La préfecture avait interdit toute manifestation, bien sûr. Mais pas très loin, il y avait une bassine qui avait été oubliée, qui était en plus illégale, remplie d'eau. Et donc... la suite de plein de réunions, d'une réunion très très longue, il y a eu cette composition qui a pris forme, et il y a une alchimie qui a opéré. Et donc, vous voyez, il y avait la Confédération paysanne qui, elle, voulait agir à visage découvert, les autonomes plutôt masqués. Et pourtant, cette alchimie a pris, et on voit bien du coup qu'il y a une nécessité qu'il y ait différentes formes et différentes forces politiques qui composent ensemble. C'est la nécessité de l'altérité. Et du coup, on voit bien aussi que l'échange, les réunions et le fait d'avoir déjà fait des actions ensemble va permettre cette composition. Et on y prend goût à cette composition. Et en plus, on va pouvoir voir qu'au fil des saisons, on va la revivre et que ça va devenir vraiment quelque chose de très très fort dans le mouvement des soulèvements, en fait. Et c'est pas l'idée de vouloir absolument convaincre les autres que notre forme d'action c'est la meilleure, mais c'est plutôt de voir qu'en fait c'est ensemble et en essayant de s'accorder les uns les autres que ça va pouvoir fonctionner, quoi. Disons avec Deleuze que la composition est cette étrange unité qui ne se dit que du multiple. Ce n'est ni la concorde superficielle d'une convergence ponctuelle, ni l'intégration à un bloc qui efface les contradictions. En fait, la composition, elle est possible parce qu'il y a une envie de dépasser les identités politiques figées, vous voyez, et de ne pas tomber dans le panneau d'un côté les radicaux, d'un côté les gentils citoyens, d'un côté les offensifs, de ce côté les pacifiques. Il y a cette plasticité qui est nécessaire. Et d'ailleurs, on voit bien que ça peut être vraiment un problème pour l'État, parce que ce travail de catégorisation comme ça, la division, c'est vraiment, il va jouer là-dessus. Et ça va vraiment être l'essence de la répression de l'État, c'est de se dire, d'un côté, il y a les gentils militants, et de l'autre, il y a les ultra-violents, vous voyez. Il va essayer de jouer sur cette division. Et par contre, effectivement, quand il n'arrive plus à distinguer qui est qui, eh ben, il va être un peu perdu, et il ne va pas réussir à nous diviser, et il va surtout avoir du mal à vraiment discerner et à s'en prendre vraiment au mouvement dans son ensemble. Il va pouvoir s'en prendre qu'à quelques-uns comme ça, mais ça va être un peu... perturbant, ça ne va pas mettre à mal le mouvement. On a pu voir ça notamment à Saint-Solino. Il y a les élus, il y a les autonomes qui ont joué ensemble, enfin, qui lui sont donné la main. Et du coup, on voit que les gens ne jouent pas forcément le rôle qu'on attend d'eux, quoi. Et en fait, ça me permet aussi de voir qu'on a chacune une manière de se rapporter à la lutte, à la radicalité, mais qu'en fait, c'est multiple, cette façon de lutter. Qu'on peut aussi bien envahir une usine avec fracas que cultiver des terres sur des zones interdites, et que tout ça, c'est ça qui va faire une composition assez riche, quoi. Que c'est pas seulement les humains qui la composent, mais c'est aussi effectivement les différentes manières de créer la lutte. Et du coup, il y a aussi une nécessité absolue de respecter la manière dont chacun et chacune effectivement porte la lutte par son héritage politique. Etc. La composition ne demande pas que les autres deviennent soi, que la Confédération paysanne agisse masquée ou que les autonomes ne bazardent rien. Mais elle part du principe que les positions peuvent bouger et les groupes se laisser altérer. Et ça, c'est super important de voir qu'effectivement, on peut, on est, bah justement, on est plastique, et puis on peut effectivement apprendre les uns des autres, et qu'en plus, ça révèle que c'est pas juste du calcul de notre part, que c'est vraiment parce qu'il y a des rencontres qui sont faites. C'est pas machiavélique, quoi, c'est pas une stratégie absolue du mouvement, mais que vraiment il y a cette envie de bâtir ensemble quelque chose et qu'il y a un commun qui se construise, quoi, une culture commune qui se construise, et que voilà, il y a un maillage qui se déploie petit à petit et qui va vraiment structurer le mouvement. Après, bien sûr, il y a des alliances qui pourraient être un peu malheureuses, etc. Mais justement, en fait, on a vu sur une action notamment, il y a le maire de Val-de-Reuil, qui est aussi le secrétaire général de LVMH, qui a voulu venir participer à une conférence de presse, notamment au moment du contournement, de la lutte contre le contournement autoroutier à Rouen. Il a voulu venir et clairement, on a dû rappeler qu'effectivement, on ne pouvait pas s'allier avec n'importe qui. Enfin, que, en fait, LVMH est un grand groupe aussi contre qui on se bat. Donc, ça aurait été un peu bizarre à ce moment-là, ça aurait été quelque chose de... Voilà, on aurait un peu été dans une dissonance cognitive. Donc,
juste si je puis parler sur ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette personne est une figure essentielle de la lutte en question. Il défend son territoire contre cette troupe, quoi. Il n'a pas débarqué. Du coup, les gens locaux sont en mode, bah oui, mais lui, il est tout le temps avec nous. Enfin, dans un cas, vraiment, ça grince. C'est pas hyper simple. Et d'autres gens, mais souvent, on dit, bah oui, mais nous aussi, on défend souvent ça. Mais là, ça va trop loin, quoi. Enfin, en fait, ok, il est contre cette troupe-là, mais il incarne tout ça. La machine, c'est pas possible. Donc, finalement, les locaux ont accepté de dire, de se mettre sur le côté et de dire, en fait, on peut pas s'afficher avec toi.
Le camp était sur sa commune.
Oui, voilà, c'est pas quelque chose qui vient comme ça.
Un enjeu de composition qui d'un coup, on se rend compte de ça.
Donc la composition est délicate, ça crée, il y a beaucoup de débats autour de ça, et justement, et de choix politiques, et c'est ça qui est assez intéressant aussi, quoi. Mais que c'est pas figé, en fait. Justement, on voit avec les maillages territoriaux, les forces territoriales politiques composées avec ça, et c'est ça qui va aussi créer des forces à certains endroits, et puis des fois des écueils à d'autres. Et donc c'est un vrai jeu d'équilibre et justement quand il y a un terrain qui n'arrive pas, un terrain d'action qui n'est pas cette composition qui crée cette alchimie un peu parfaite dans certains autres endroits, ben en fait ça peut mettre un peu à mal effectivement une action. Et puis aussi ce qui est important, c'est que justement il ne faudrait pas qu'on tombe dans un schéma assez typique à reproduire comme ça à chaque action, parce qu'en fait sinon on devient super prévisible. Donc en fait c'est ça, c'est comment faire pour composer ensemble où la facilité voudrait qu'on aille vers quelque chose de très systématique, et en fait surtout faut pas tomber dans cet écueil là, quoi. Et donc il y a quand même une idée, c'est qu'on est sur l'envie qui est une éthique de la non-dissociation, que c'est quelque chose qui nous porte beaucoup et que c'est ça qui fait aussi notre force.
Donc je vais vous lire un extrait qui revient sur cette période de la dissolution et après les 25 mars à Sainte-Soline, donc, quand il y a eu des grands affrontements avec de nombreux blessés parmi les manifestants, et où le gouvernement a tenté de criminaliser l'ensemble du mouvement, en poursuivant y compris des porte-paroles d'organisations syndicales au nom du fait qu'elles avaient appelé à cette manifestation, qu'elles ne s'étaient pas justement dissociées, qu'elles avaient refusé de dire « Ah bah oui, c'est la faute des casseurs, etc. » et que tout le monde s'est tenu, non pas à revendiquer le fait d'attaquer des policiers, mais à dire « C'est pas notre sujet. » Donc c'est ça la non-dissociation. C'est pas forcément ni d'avoir tous les mêmes pratiques, ni de revendiquer des pratiques que pour certaines de ces organisations, elles ne trouvent pas bonnes, pas stratégiques, mais simplement de refuser ce jeu médiatique et policier qui enjoint à la CGT, à telle ou telle partie de gauche, de désigner la faute sur donc, ce qui, à ce moment-là, est appelé les casseurs, telle ou telle personne qui ont utilisé des modes d'action violents. Donc ça ne s'est pas passé. Puisque, exceptionnellement, les forces syndicales et les parties de gauche ont refusé ce jeu-là. C'est un petit passage qui parle de ça. Ce qui s'est produit après le 25 mars à Sainte-Soline, la solidarité de tous et toutes, la présence de la foule à chaque procès montre que le processus de division ne fonctionne plus. Quand le gouvernement s'en prend à des porte-paroles d'organisations syndicales, en les traînant en justice, quitte à susciter une levée de boucliers national, il révèle que ce qui lui est insupportable, c'est que ces organisations aient cessé de se soumettre à ces injonctions et bravent les interdictions. Mais c'est aussi et surtout qu'elle ne se désolidarise pas de celles et ceux qui manifestent. Ici, le choix de la composition ne signifie pas que tout le monde doit s'accorder sur l'ensemble des modalités d'action, mais il affirme que ce qui prime, c'est d'être ensemble face à l'insupportable violence qui nous fait face, celle de l'État, et des infrastructures mortifères qu'il protège.
En fait, on voit bien qu'ici, la composition, ça devient un enjeu assez majeur pour être un vrai contrepoids, finalement, face à un État, qu'on pourrait dire, fascisant. Et que pendant très longtemps, il y a eu cette unité un peu sociale autour du prolétariat, qui était un peu une figure comme ça, symbolique, enfin symboliquement, mais une figure très majoritaire, qui pouvait faire un vrai contrepoids face à l'État et qui portait des sujets révolutionnaires, etc., et qui pouvait avoir vraiment une prise de position forte et qui pouvait vraiment faire poids. Mais en fait, très vite, maintenant, ça fait une quarantaine d'années qu'on voit que cette unité sociale, elle n'existe plus vraiment, et que plutôt c'est plein de mouvements différents qui convergent plus ou moins et qui portent différentes révoltes ou bouleversements sociaux, les jeunes, les féministes, les précaires, les habitants de quartiers populaires, les paysannes du sud global. Il y a plein de choses comme ça qui composent en fait le maillage politique de la vie politique française, et du coup on ne voit plus comme ça une force unitaire s'élever contre l'État qui peut être oppressif. Et par contre, on a bien vu au moment des Gilets jaunes qu'effectivement, pourrait y avoir de cette couche déconsidérée, des couches déconsidérées de la société, des soulèvements possibles. Mais encore une fois, vu que c'est composite, et ben, c'est pas évident de pouvoir rallier tout le monde, quoi, parce que est-ce qu'on se sent appartenir, est-ce qu'on ne se sent pas appartenir, etc., etc. Est-ce que le prolétariat faisait, il y avait un peu comme ça une bulle, quoi. Il y avait coulé. Et devant ce manque un peu d'un groupe social cohérent, on va dire, il y a cette envie de s'appuyer justement sur les différentes entités, d'en faire une force, de faire de ces différentes positions sociales et de différents intérêts à agir, de construire des relations, de construire d'abord les relations, d'abord de réunir les personnes qui pourraient être une force vraiment, pour ensuite trouver les sujets sur lesquels pouvoir avoir poids, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais ça va être là-dessus que la composition, c'est la composition qui va vraiment permettre de justement créer une nouvelle force face à l'État. Et notamment, il y a des exemples aussi au niveau des territoires locaux, à certaines échelles, en fait, c'est plus facile de voir que sur un territoire donné, effectivement, toute cette composition va pouvoir se structurer, va pouvoir faire une alchimie, comme on dit, parce que justement, on sent appartenir à un territoire, et du coup, ça va être facile de, même si on appartient à différentes forces politiques différentes, ou on a une position différente, de pouvoir lutter ensemble contre quelque chose. Typiquement, l'exemple qui est donné dans le livre, c'est Notre-Dame-des-Landes. Il y avait les habitants, il y avait les élus, il y avait les paysannes, il y avait les personnes qui habitaient les squats qui ont réussi à lutter, à préserver ce terrain. Et en fait, chacun et chacune n'aurait pas pu se passer les uns des autres. En fait, ce n'était pas possible. Ils auraient été trop... ils n'auraient pas été assez forts. Et donc, on voit bien que justement, cet espace un peu restreint va permettre cette composition de façon plus facile. Et du coup, c'est là-dessus que les soulèvements de la terre s'appuient sur ces configurations locales. Et au niveau de la dimension nationale des soulèvements de la terre, par contre, c'est, on va dire, pour porter ce mouvement au niveau national, ça va plus être une forme délibérée de vouloir appartenir à ce mouvement, parce qu'en fait, bah oui, on a bien compris que c'est la composition qui va faire force, quoi. Et que, alors que chacun pourrait retourner un peu à ses petits précarés. Et voilà.
Citation pour...
Voilà, c'est ça.
Allez. Ça dit, mais dans la séquence historique que nous traversons incline à la composition. L'inaction climatique incite les plus timides à envisager légitimement l'action directe, autant que ses partisans invétérés à faire feu de tout bois et à ne négliger aucun levier, y compris le levier institutionnel.
L'augmentation, en second lieu, d'une répression tous azimuts sur les mouvements sociaux tend à pousser tout le monde dans le même camp face à la police. Face à ces clivages que l'extrême droite s'attache à exacerber enfin, l'époque nous presse de redéfinir ce que serait un camp commun et des antagonismes prioritaires. L'hypothèse structurelle et stratégique des soulèvements de la Terre encourage à intensifier le champ de la composition.
Merci. Ce livre, qui est quand même très très intéressant, je vous envoie vraiment à le lire. Vous avez beaucoup d'extraits, mais il y a vraiment plein de récits d'action et ça donne vraiment envie d'aller lutter, quoi, clairement. On a l'impression qu'on entend le lit. Juste avant de faire un pot et d'aller. Boire un coup parce qu'on l'aura vraiment mérité après cette longue présentation. Peut-être Mathieu, tu vas juste nous présenter brièvement les prochains événements ou temps forts de la lutte. Mm-hmm. De façon très succincte.
Et ben, oui, alors les choses dont on a beaucoup parlé, qui sont donc la lutte contre les bassines, il n'y a pas pour l'instant de nouvelles grandes dates spectaculaires et d'appel international. Pour autant, cette lutte continue. Juste pour en dire très brièvement deux mots, on est dans une situation assez intéressante et à la fois critique, puisque en gros la lutte a permis à la fois de ralentir très fortement les chantiers, donc sur place, en fait, les chantiers qui auraient déjà dû être terminés depuis longtemps, qui sont encore en cours. Et il y a des dizaines de projets qui ont été abandonnés grâce à cette lutte-là. Et c'est devenu un sujet national de débat très fort, où le camp de l'opposition est très fort. Devenu un sujet pour les promoteurs, et où aujourd'hui on n'a plus une prise de parole médiatique de la FNSEA ni du ministre qui n'évoque pas le fait que évidemment il faut poursuivre les bassines. Et donc ils sont à la fois, ils ont abandonné plein, à la fois ils sont très accrochés, en fait, de montrer qu'ils ne vont pas céder jusqu'au bout. Donc celles qui sont entamées, ils vont continuer à les faire, etc. Il y a une situation locale assez tendue aussi, avec une instrumentalisation de beaucoup de forces, notamment fascistes du RN, qui ramènent des militants sur place pour défendre les bassines, pour augmenter la tension, pour impressionner les militants anti-bassines, etc. Plus la répression qui est devenue très forte. Tout ce contexte fait que c'est compliqué d'imaginer aujourd'hui appeler d'ores et déjà à une prochaine grande date, donc à une réflexion locale avec les soulèvements de la Terre, sur comment poursuivre ce combat et comment utiliser les manifestations de masse sans retourner au carton comme ça a été à Sainte-Soline, et comment allier ça avec d'autres formes de mobilisation plus locales. Voilà, ça c'est aussi à raconter par chacun. Donc en gros, il y a cette lutte-là qui reste vraiment très centrale, dans laquelle il n'y a pas de date. Et puis l'autre combat, c'est la lutte contre l'artificialisation, notamment les routes et les trains. Donc il y a le combat là aussi un peu emblématique contre la 69, qui ressemble un peu, puisqu'il y a ces dernières semaines plusieurs projets de route un peu partout qui ont été abandonnés, et des premières victoires sur ces combats sur les routes. Et par contre la 69 qui est en train de se faire, la dernière ZAD a été expulsée hier, et donc bon, la lutte continue, mais probablement cette route va se faire, mais le combat sur l'artificialisation continue. Et la prochaine date nationale, c'est à partir de demain. Il y a un grand week-end d'action contre des lignes à grande vitesse autour de Bordeaux, notamment une Bordeaux Dax. Et donc voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont prévu peut-être d'y aller, sinon vous en entendrez parler. Il y a donc des journées d'action, demain préparation, et samedi et dimanche, des actions où on attend des milliers de personnes près de Bordeaux contre les lignes à grande vitesse. Voilà, et la prochaine grande campagne, pour tout à fait finir, c'est une campagne qui est lancée par un ensemble d'organisations dont les soulèvements de la Terre, contre le groupe Bolloré, et donc sur laquelle il y aura différentes dates dans l'année aussi.
C'est vraiment le grand méchant, c'est l'incarnation du monde. Il va y avoir une série de documentations qui vont être aussi produites, notamment une vidéo qui a été faite, qui sera à différents moments, qui rappelle un peu à quel point il est vraiment horrible ce personnage. Mais vous voyez, il concentre, voilà, on parle d'empire. Et c'est pas pour rien, quoi, c'est que vraiment il concentre. Et qu'il y a eu vraiment une 17e année un peu là, au moment de la discussion, pas les soulèvements du gouvernement, en fait, qui a besoin d'une réaction à son
endroit-là, un peu comme presque la chance d'avoir loupé le coche, vous voyez, en fait, on a laissé Bolloré vraiment prendre le contrôle des médias, enfin, de, vraiment, enfin, ouais, et, bon, son empire, il n'est pas du tout que médiatique, hein, c'est aussi ça qui va faire que plein de gens connaissent l'emprise médiatique de ce bonhomme, mais il n'a vraiment pas du tout que ça. Et il y a un peu bah, une montée d'aller le titiller, il y a une première action qui a malheureusement été reportée, annulée, parce qu'elle devait consister à aller sur enfin, aller attaquer vous voyez, les propriétaires du Nil dans le Finistère, qu'il a vraiment absolument privatisé et qu'il a fait garder par une milice d'extrême droite. Quoi. Il y a un personnage connu de la fachosphère vraiment qui est venu un peu son garde privé là, sur cette île des Glénans. Et ouais, non, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment incroyable. Et donc, il y avait une flottille qui avait été constituée comme première action contre lui. Là. Il y avait une centaine de bateaux qui s'étaient inscrits pour aller l'attaquer, quoi, enfin, aller prendre un assaut sur l'île. Alors, peut-être qu'il ne serait pas arrivé, mais peut-être que si, on ne sait pas. Mais ça a été reporté à cause d'une tempête. Pas de bol, mais ça sera certainement reprendre. Donc, ça, c'est un peu une volonté aussi d'avoir un coup d'action médiatique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, ce qu'il y a de pratique avec les gens qui ont un empire, c'est qu'ils sont partout. Donc, on peut aller les attaquer un peu partout et qu'il y aura sûrement la volonté de s'organiser aussi localement pour aller d'une façon ou d'une autre perturber la logique économique de Bolloré. Et il y a des cibles vraiment sur partout le territoire. Il y a des enquêtes qui se mènent à différentes échelles pour essayer de voir ce qui pourrait être le plus pertinent. Et je pense que chez Ocal, c'est pas impossible que tu écoutes. C'est des gens que ça intéresse. Ça peut être aussi une porte d'entrée dans le comité, d'aller voir où est-ce que Bolloré a son emprise dans le secteur et comment un peu le bousculer.
Ce premier enregistrement s'inscrit dans notre cycle Ruralité, regard sur les mondes paysans au temps des luttes écologiques. Ce cycle s'étendra sur toute l'année. Vous trouverez le programme à la librairie et sur nos réseaux sociaux. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve prochainement pour une rencontre avec Nicolas Renaï, sociologue, auteur du livre Jusqu'au bout, vieillir et résister dans le monde ouvrier, paru aux éditions La Découverte. Restez à l'écoute.